Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Le Québec
maintenant. Et c'est aujourd'hui que la ministre responsable du sport au Québec, Isabelle Charest, a déposé son projet de loi pour mieux protéger les jeunes sportifs alors que de nombreux cas d'abus et de harcèlement ont été rapportés au cours des dernières années. Madame Charest est avec nous. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Quentin.
Madame Charest, c'est un projet de loi important. Vous annoncez notamment la création d'un nouveau poste, un protecteur des athlètes.
Oui, ben en fait, il va s'appeler le protecteur de l'intégrité en loisirs et en sport. Donc, oui, ça fait partie des recommandations qu'on a eues suite à différents rapports d'enquête dans différents milieux sportifs, mais ça fait aussi partie des recommandations du mandat d'initiative qu'il y a eu au printemps suite aux événements là, d'initiation dans la Ligue junior majeure du Québec. Donc, de créer cette entité, donc ce protecteur-là, qui évidemment est indépendant, mais qui est aussi incarné par une personne et qui est accompagné évidemment de pouvoirs supplémentaires par rapport à ce que notre officier indépendant des plaintes avait auparavant. Donc, un protecteur qui a plus de mordant, qui va faire en sorte évidemment d'assainir le milieu sportif.
Alors, quels sont ces pouvoirs supplémentaires?
Ben, un pouvoir d'enquête, entre autres. Il peut aussi initier une enquête de son propre chef. Donc, si il est au fait d'une situation de soupçon, donc il pourra déclencher une enquête. Il va avoir le pouvoir aussi de contraindre quelqu'un à témoigner. Donc, le fardeau ne repose plus uniquement sur la victime, de sorte que, bon, s'il y a une personne qui est alléguée avoir des comportements répréhensibles, le protecteur pourra le contraindre à témoigner. Donc, évidemment, des pouvoirs qui sont rehaussés. Et par la suite, puis on sait que l'officier indépendant des plaintes auparavant pouvait émettre des recommandations, mais ensuite, c'était un peu au libre chef des fédérations de les mettre en application ou pas. Les fédérations le faisaient, mais elles auraient pu ne pas le faire auparavant. Maintenant, évidemment, elles devront se conformer. Et si elles ne le font pas, j'ai le pouvoir d'ordonnance. Donc, évidemment, ça va faire en sorte de sécuriser le milieu.
Bon, ce protecteur des athlètes, il ne pourra pas travailler seul. La personne choisie, ça prend toute une équipe parce qu'elle aura les ressources. Il y a quand même beaucoup de plaintes au cours d'une année. J'imagine beaucoup d'enquêtes à faire également.
Oui, évidemment, il va y avoir tout un organisme. Il va y avoir aussi des employés qui vont pouvoir traiter des plaintes. Donc, on parle de 38 employés qui sont prévus pour la création de cet organisme-là. Mais il y aura aussi un bureau conseil. Puis, on n'a pas parlé encore, mais la loi prévoit maintenant d'inscrire l'obligation de procéder à la vérification des antécédents judiciaires. Donc, il y aura un bureau conseil qui pourra orchestrer tout ça, puis pouvoir s'assurer d'une transparence, puis d'une communication entre les différentes instances.
Il y avait un certain flou à ce niveau-là sur la vérification des antécédents judiciaires des gens qui travaillent dans le sport, entraîneurs, par exemple.
Ben, en fait, il y avait un certain flou dans le sens que ce n'était pas inscrit à la loi. Donc, ce qu'on avait avec la loi sur la sécurité dans le sport, c'était même pas avec la loi, là, mais on avait instauré avec l'énoncé ministériel que j'ai fait en 2019, il y avait l'obligation aux fédérations qui sont soutenues par le ministère, qui sont soutenues financièrement, elles avaient l'obligation d'adhérer à la politique intégrité dans laquelle il y avait la notion de vérification des antécédents judiciaires, mais ce n'était pas inscrit à la loi. Là, on vient élargir complètement la portée de cette loi-là, donc tous les organismes, même s'ils ne sont pas affiliés à une fédération sportive, auront l'obligation dans certaines situations, puis on pourra y revenir, là, auront l'obligation de procéder à la vérification des antécédents judiciaires. La même chose aussi pour tout le secteur du loisir qui ne figurait pas dans la précédente loi. Alors vraiment, on vient ratisser très large, en fait, tout le contexte sportif et de loisir au Québec. Et par rapport aux vérifications, puis qui devra procéder ou qui sera assujetti à la vérification des antécédents judiciaires, ça, ce sera déterminé par voie réglementaire. Donc, on fera un gros comité pour voir bon dans quel contexte une personne est en situation d'autorité, est dans une situation de proximité avec la clientèle vulnérable, où il pourrait y avoir des cas, peu importe, là, de comportement répréhensible. Donc, il y aura toute une réglementation sur qui devra procéder à la vérification des antécédents judiciaires.
Ça va prendre un suivi considérable, là, puisque vous visez tout le sport et tout le monde du loisir également.
Oui, ben tout à fait. Ben c'est sûr que tu sais la notion importante, c'est que maintenant c'est inscrit dans la loi. Donc on sait que quand la loi, nul ne peut ignorer la loi. Donc les organismes auront l'obligation de procéder dans certains contextes à la vérification. Maintenant, une chose qui est importante aussi avec ce projet de loi-là, c'est qu'on accompagne ça d'investissements financiers importants. Donc, entre autres, bon, tout ce qui est les montants pour la création de l'organisme indépendant responsable du traitement des plaintes, mais aussi une compensation pour les organisations sportives et de loisirs qui devront procéder à la vérification des antécédents judiciaires.
Donc, ce sont des investissements de combien?
C'est de 29,7 millions pour les cinq prochaines années.
Par rapport aux autres juridictions au Canada, Mme Charest, le Québec se situe où avec ce nouveau projet de loi?
Je vous dirais 2 kilomètres en avant des autres provinces.
Bon,
à peu près, mais on était déjà en avant de tout ce qui s'est fait ailleurs au Canada avec l'officier indépendant des plaintes. Et là, on vient évidemment y donner beaucoup plus d'assises, beaucoup plus de mordants. On vient aussi circonscrire de façon beaucoup plus large l'application de cette loi-là. Donc, on est vraiment en avant.
Bon, c'est le dépôt du projet de loi aujourd'hui. La loi n'est pas encore adoptée. À quoi ça va ressembler le processus qui va mener à l'adoption de la loi?
Ben, il va y avoir des consultations particulières, il va y avoir tout le processus là pour la mise en place, puis l'adoption, puis toute la patente là qui va se faire. Évidemment, ce qu'on veut, c'est de le faire le plus rapidement possible pour pouvoir mettre en place la suite des choses. Mais on va suivre le processus là naturel, normal des travaux parlementaires.
Madame Charest, en terminant, on le sait, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il y a beaucoup moins de bagarres cette saison. Vous vous êtes battue pour limiter, pour décourager les bagarres. Vous devez être quand même assez fière de la tournure des événements, ce chapitre-là.
Je suis extrêmement fière de la tournure des événements. Je suis extrêmement fière de constater, bon, d'une part, que c'est pas vrai qu'il y a moins de monde dans les estrades. Au contraire, il y a plus de gens dans les estrades présentement qu'il y en avait l'année passée, par exemple. Il y a moins de bagarres. Il y a pas plus de coups vicieux, parce que c'est ça, hein, l'argumentaire des réfractaires, c'est qu'ils disaient qu'il y aurait plus de monde dans les estrades, il y aurait plus de coups vicieux, qu'il y aura plus de joueurs dans la Ligue nationale du Québec ou de la Ligue junior majeure du Québec. Bon, évidemment, on oublie que dans la NCAA, il y a pas de bagarres. On oublie qu'il n'y a pas de bagarre. On oublie que dans les championnats du monde, il n'y a pas de bagarre aux Jeux olympiques et tout ça. Mais je pense que le constat est très clair. Les jeunes ne veulent plus se battre. Ils veulent faire leur sport de façon éthique. Ils n'ont pas le goût de tout ça. Ils n'ont pas le goût de s'infliger des blessures dont ils n'ont pas besoin et qui ne servent absolument rien, parce qu'on ne gagne jamais un match par une bagarre. Alors, le constat, pour moi, me rassure et me permet aussi de faire pression sur les dernières ligues au Canada qui ont encore des bagarres, parce que ultimement, je pense que...
Ouais, l'exemple du Québec fait jaser, hein, ailleurs au Canada.
Absolument, absolument. Puis évidemment, si tout le monde nous regardait du coin de l'œil pour dire, mon Dieu, ça sera pas applicable, mais évidemment, c'est pas le cas, ça se passe très bien. Et ça, j'en suis très, très fière.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ça me fait plaisir.
Bonne journée, Isabelle Charest et ministre des Sports du Québec.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Le Québec maintenant.
Vous vous souvenez sûrement de cet incident impliquant un avion Boeing d'Alaska Airlines dont un panneau qui était là en lieu et place d'une porte s'est détaché en plein vol le 5 janvier dernier. Alors, il y a une enquête des autorités américaines et voilà qu'on apprend aujourd'hui que plusieurs boulons pour retenir la porte étaient manquants. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au juste? J'en parle avec Jean Lapointe qui est pilote de ligne à la retraite et expert en aviation civile. Monsieur Lapointe, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Quentin.
Monsieur Lapointe, des boulons manquants dans un avion, je ne croyais pas qu'une telle chose pouvait véritablement survenir.
Non, vous avez raison. Et dès le 8 janvier, en entrevue avec Monsieur Paul Arcand sur vos ondes, j'avais donné ma grande satisfaction au fait que les autorités américaines de l'Agence fédérale américaine, la FAA, le Bureau de la sécurité dans les transports, avaient réagi très rapidement dans ce dossier. En déclarant que même s'il n'y avait pas eu de décès, qu'on faisait face plutôt à un accident. Alors, la nouvelle, quand c'est un accident, c'est qu'il y a des protocoles qui sont très précis au niveau mondial, gérés par l'Organisation de l'aviation civile internationale et qui exigent une grande quantité d'enquêteurs pour faire cette enquête-là. Et effectivement, même si on pensait que ça pouvait être des boulons dans les premiers jours de cet accident-là. La problématique est beaucoup plus large au niveau de la qualité, justement, d'assemblage des Boeing à ce moment-ci.
Ben voilà, ça laisse supposer un problème plus important. Mais d'abord, avant de plonger dans tout ça, M. Lapointe, j'aimerais que vous nous rappeliez là, exactement ce qui s'est produit. Parce qu'il y a des gens qui disent que c'est une porte qui a cédé. Mais en fait, c'était pas véritablement une porte. La porte avait été remplacée par un panneau. Pourquoi c'était comme ça?
Bien, parce que le 737 MAX, c'est un avion qui peut transporter près de 200 passagers. Et si vous décidez de ne pas l'opérer à sa capacité maximum, vous n'êtes pas obligé de rajouter cette porte d'urgence. Et une porte d'urgence, c'est lourd. Ça demande un mécanisme qui est lourd, qui est complexe, qui demande de l'entretien. Alors, si la société aérienne décide de garder le nombre minimum de passagers pour ne pas avoir cette porte-là, on remplace la porte par un panneau qui est attaché à l'avion, au fuselage, entre autres par des boulons. Alors, Alaska, n'utilisant pas le nombre maximal de passagers, n'a pas mis cette porte-là.
Et là, le boulon a été enlevé, retiré quand on a fait la transformation, puis on a oublié de les remettre. C'est à peu près comme ça que ça s'est produit, semble-t-il.
Bien, en fait, l'enquête était à décider qui était le maître d'œuvre. Évidemment, Boeing a fait faire ses fuselages à Kansas, dans l'État du Kansas, à Wichita, par un sous-contractant qui s'appelle Spirit, qui en a fait près de 10 000. Alors, au départ, les enquêteurs voulaient voir où est-ce que les boulons avaient été oubliés d'être mis. Même Alaska Airlines a été scruté parce que peut-être qu'ils les avaient enlevés et non remis. Mais en fin de piste, aujourd'hui, ce qu'on apprend à l'intérieur de ce rapport préliminaire-là, que c'est Boeing qui n'a pas, lors de la livraison de l'avion, n'a pas fait un contrôle de qualité nécessaire, soit par manque de personnel ou trop pressé de livrer un avion à une compagnie d'aviation.
Il me semble que alors, c'est très, très, très inquiétant.
Oui, c'est inquiétant, Monsieur Quentin, et c'est tellement inquiétant que je disais dans les premiers jours que je ne serais pas surpris que cet accident-là monte jusqu'au Congrès américain, parce qu'il faut savoir que le Congrès américain, c'est eux qui gèrent le Bureau de la sécurité des transports et l'Agence fédérale. Il faut aussi savoir que Boeing est probablement le ou un des plus gros exportateurs américains vers toute la planète, et que l'image américaine en était entachée. Alors, c'est pour ça qu'à ce moment-ci, on a le rapport préliminaire qui démontre qu'il n'y avait pas de problème de conceptualisation de cette porte-là, mais plutôt un mauvais assemblage ou un non-assemblage. Et Boeing va payer très cher là, de cette erreur-là.
De quelle façon?
Ben de plusieurs façons. Premièrement, on a entendu Alaska Airlines dire que ça leur a coûté 150 millions de pertes de revenus pendant les 3 semaines où les avions n'ont pas pu voler, parce que là, aujourd'hui, ils sont de retour en vol. Faut croire que United Airlines a probablement perdu plus de 150 millions, eux aussi. Et aussi, c'est la rigidité de l'Agence fédérale américaine qui dit à Boeing, « Oh, écoutez, vous voulez doubler votre production mensuelle d'avions d'ici 2-3 ans, ben, attendez-vous à ce qu'on dise non, à moins que vous fassiez une embauche énorme de gens qui ne sont pas revenus suite à la pandémie, des dizaines de milliers de travailleurs, dont plusieurs d'expérience. Et donc, on sent là au niveau de l'Agence fédérale américaine que Boeing va devoir montrer un dossier parfait pour apprendre l'augmentation de la construction des avions. Mais on a vu aussi dans les derniers jours que Boeing est obligé d'arrêter la certification du 737 MAX 700 et 1000 parce que la FAA ne veut pas leur donner la permission de voler avec des avions qui ont d'autres problèmes, entre autres sur les systèmes d'antivibrage des moteurs. Alors, ils sont pénalisés là sur plusieurs aspects.
Bon, là, c'est Alaska Airlines qui s'est retrouvé aux prises avec cette situation-là, mais des compagnies aériennes partout dans le monde qui exploitent des appareils de Boeing, là, il y en a une puis une autre. Alors, est-ce qu'on peut s'assurer, comme voyageur, comme voyageuse, qu'on est en sécurité dans un avion fabriqué par Boeing, que le contrôle de la qualité a été suffisant?
Ben, écoutez, j'ai des membres de ma famille qui ont voyagé dans un 737-8 la semaine après que ça soit arrivé. Et donc, on n'a pas ce type de porte-là sur tous les types de Boeing. C'est quand même un avion. On a été chanceux, je dois dire quand même, M. Quentin, que cet accident-là se soit produit aux États-Unis, où on est certain que les pilotes et les agents de bord sont en général des gens d'expérience qui sont bien entraînés puis qui réagissent bien lorsqu'il y a des accidents. Ça, on a été vraiment chanceux. Mais moi, je vous dirais que demain matin, si j'avais à prendre un vol ici au Canada là, sur un 737 MAX, personnellement, sachant que plusieurs pilotes adorent voler cet avion-là, j'aurais pas d'inquiétude.
Bon, alors la suite des choses, c'est quoi une fois que ce rapport préliminaire est déposé?
Bien, on peut s'attendre à ce que le rapport final soit livré dans les 12 à 15 prochains mois, étant donné qu'on a tous les éléments, c'est pas un accident comme un écrasement, donc on a tous les dossiers, tous les éléments pour arriver à faire ce rapport final-là, que ce soit une partie des boîtes noires, des gens qui étaient impliqués au niveau de Boeing, au niveau de la compagnie d'Alaska Airlines. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on aura un autre rapport qui va sortir dans un mois, mais je pense que la vitesse avec laquelle les agences américaines ont réagi, non, il faut penser avoir la certitude que le prochain 737 MAX qui va sortir de l'usine, tous les boulons requis vont être à la bonne place et que l'avion va avoir été inspecté peut-être un peu mieux que ce que Boeing a fait au cours des dernières années.
Ouais, et on a également été chanceux que ce panneau-là ne fasse pas de dégâts quand il est tombé du ciel, là.
Ah oui, ça peut arriver. Écoutez, il y a un dicton dans l'aviation dans lequel j'ai travaillé pendant plus de 42 ans qui disait « Si vous croyez que la sécurité aérienne coûte cher, ben essayez un accident ». Vous allez voir que ça va vous coûter des yeux de la tête, puis ça va peut-être même vous amener, pour certaines sociétés aériennes, vers la faillite. Alors, Boeing, on aurait cru qu'ils auraient appris des deux accidents qui se sont produits là en 2018-2019. Il semble que non, et que cette fois-ci, ils n'auront pas une deuxième chance.
Jean Lapointe, vous êtes un pilote de ligne à la retraite et expert en aviation civile. Merci de ces éclaircissements.
Je vous en prie, M. Quentin.
Bonne journée.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Le Québec
maintenant. Il faut rapidement encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle technologie qui peut entraîner des dérapages importants. Et une des personnes qui pense ainsi, c'est quelqu'un de très connu, le professeur Yoshua Bengio, qui est enseignant au département d'informatique et de recherche opérationnelle de l'Université de Montréal. Je l'accueille avec plaisir à l'émission. Professeur Bengio, bonjour.
Bonjour, merci de vous intéresser à cette question.
Ouais, ben c'est une question qui est un sujet chaud à l'heure actuelle, professeur Bengio. Vous savez, avant qu'on parle de législation, j'aimerais vous entendre sur un sujet. Il y a beaucoup de gens au début, quand l'intelligence artificielle a commencé à entrer un petit peu plus dans le quotidien, puis c'est un phénomène relativement récent, qui en ont vanté avec raison les mérites. Mais aujourd'hui, on dirait que tout ce qu'on entend à propos de l'intelligence artificielle, c'est plus négatif. Ce sont les craintes, ce sont les dérapages, ce sont les excès que ça pourrait causer. Qu'est-ce qu'il faut en penser au juste, selon vous?
Il y a deux côtés à la même médaille. C'est parce que il y a des progrès scientifiques qui font qu'on est en train de mettre au point des machines qui deviennent très compétentes, intelligentes, c'est-à-dire capables de faire plein de choses, mais ça veut dire aussi d'être utilisé à des fins très très néfastes ou très très positives. Donc, si on veut bénéficier du côté positif, que ce soit pour la santé, l'environnement, la productivité dans les entreprises, etc., ben il faut aussi qu'on s'assure que les côtés négatifs arrivent pas. Puis il y en a pas d'encadrement aujourd'hui dans le monde, il y en a très très peu là qui est en place. Et il faut s'en occuper. Il y a une discussion globale sur ces questions-là dans le monde. Là.
Est-ce que c'est parce que c'est apparu trop vite? Je me souviens, il me semble qu'il y a à peine 18 mois, on n'en parlait pas autant d'intelligence artificielle. Il me semble que c'est au début peut-être de 2023 que pour le commun des mortels, c'est devenu un enjeu qui était plus souvent dans l'actualité.
Oui, c'est l'arrivée de ChatGPT qui a déclenché tout ça. C'est un progrès scientifique qui n'était pas attendu. Des chercheurs comme moi, on pensait que ça prendrait au moins 10 ans avant d'arriver au niveau de ce qu'on a vu avec ce système-là. Et ça amène beaucoup de gens à penser que peut-être qu'on va continuer à progresser à la même vitesse, que là, on va se retrouver avec des outils pour lesquels on n'a pas de protection du public. Il y a des dangers même plus graves potentiellement qu'on comprend pas. Et on peut pas juste attendre que ça arrive, il faut faire quelque chose.
Devant un comité des communes à Ottawa, là, hier, vous avez même évoqué l'idée que la sécurité nationale peut être mise en cause en raison de l'intelligence artificielle. Pourquoi?
Ben, par exemple, ces systèmes-là ont fait beaucoup de progrès, incluant justement avec des systèmes comme ChatGPT, mais d'autres là, dans le même genre, dans leur capacité informatique, c'est-à-dire à programmer. La machine programme elle-même. Là, il y a déjà des systèmes qui aident des programmeurs. Bon, vous allez me dire, c'est super, c'est bien ça. Mais faut penser que une grande partie de notre infrastructure industrielle est informatisée, puis que il y a déjà des problèmes de cybersécurité. Si ces outils-là, qui peuvent être disponibles à n'importe qui pratiquement, incluant des terroristes ou des pays qui veulent nous nuire, peuvent facilement utiliser l'intelligence artificielle pour lancer des cyberattaques, ben on a un problème. Alors, il faut réfléchir à ces enjeux-là. Puis ça, la cybersécurité, c'est un enjeu. Il y a des craintes au niveau des armes biologiques, des armes chimiques. Il y a des craintes au niveau de la désinformation, qui est quelque chose qui est déjà en cours. Là, c'est pas de la science-fiction.
Est-ce qu'une simple législation peut nous prémunir contre ces dangers-là?
Tout seul, ça sera pas suffisant. Il va falloir que on travaille au niveau international aussi. Il va falloir qu'on travaille à des progrès scientifiques pour mettre au point des systèmes qui vont être moins facilement détournables à des mauvaises fins. Il y a beaucoup à faire. Il faut aussi que le public comprenne mieux ce qui se passe pour d'abord conscientiser les politiciens à agir, mais aussi pour pas se faire avoir facilement, par exemple. Il va y avoir des fraudes qui vont arriver grâce à ces systèmes-là. Il faut que les gens comprennent que quand ils interagissent, par exemple, sur Internet, dans un dialogue, sur un média social, c'est pas sûr que de l'autre bord, même si c'est un être humain, ça pourrait être une machine éventuellement qui a l'air de parler français comme vous et moi, mais dans le fond, est en train d'essayer de vous convaincre de changer d'opinion politique.
Dans un monde idéal, une législation sur le plan fédéral pour encadrer l'intelligence artificielle, professeur Bengio, ça dirait quoi?
Ça dirait que les entreprises qui développent les systèmes les plus intelligents, les plus puissants, et pour l'instant, le seuil que moi je propose, il est tel qu'il n'y a aucune compagnie au Canada actuellement qui ont cette capacité-là, mais ça va venir. Il y en a comme deux aux États-Unis. Ben, ils auront des obligations. Il faut qu'ils déclarent au gouvernement qu'ils sont en train de mettre au point ces systèmes-là. Il faut qu'ils s'assurent que ces systèmes-là vont être sécuritaires pour le public de toutes sortes de manières, puis qui montent patte blanche comme on le fait pour l'industrie des avions ou le pharmaceutique ou même la viande. Je veux dire, il y a plus de réglementation dans un sandwich que dans votre dans ChatGPT.
Et ça, c'est très, très, très inquiétant. Vous avez dit devant le comité des communes, ou en tout cas, vous aviez projet de le dire, et vous êtes cité dans la presse à cet effet-là. Grouillez-vous, parce qu'on va payer collectivement le prix de l'inaction. Quel pourrait être le prix à payer?
Ben, si on ne met pas les bonnes balises, dans le court terme, on va avoir des utilisations dangereuses pour le public. Donc, il y a des menaces à la démocratie, à nos systèmes électoraux, à la cohésion de l'opinion publique. Il y a des menaces de sécurité nationale, comme ce dont je parlais. Il faut qu'on se protège. Il faut qu'on s'assure que les systèmes qui viennent de l'étranger ou qui sont faits par des compagnies d'ici respectent certaines normes qui restent encore à définir. Il faut que le gouvernement se mette en place des équipes qui ont la compétence pour comprendre ces choses-là, puis qui peuvent aider à mettre les balises, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire pour essayer de minimiser les risques. On doit travailler avec nos partenaires internationaux aussi. Mmh.
Est-ce que vous sentez qu'au Canada, on en est là, qu'il y a un désir des élus de légiférer, de s'impliquer activement dans ce dossier-là, ou on est encore un peu dans une position d'attentisme?
On est entre les deux. Je pense que le niveau de conscientisation est beaucoup plus grand aujourd'hui qu'il y a 6 mois. Le fait qu'on a eu un sommet global à Londres, là, avec 29 pays, dont le Canada, sur l'enjeu de la sécurité de l'intelligence artificielle, c'est sûr que ça aide à amener le sujet à l'heure du jour. C'était un des enjeux centraux dans les discussions au forum de Davos, par exemple, il y a quelques semaines. C'était un des enjeux à la dernière réunion du G7. Les gouvernements commencent à s'éveiller là, que, en plus de tous les autres problèmes qu'on a, les changements climatiques, les problèmes d'inflation, etc., il y a un autre problème qui nous tombe dessus, puis il faut qu'on s'en occupe, nous, les gouvernements.
Et c'est peut-être pas tous les pays qui ont la même approche, là. Est-ce que la Russie, la Chine, le Canada et les États-Unis analysent le problème de la même façon? Peut-être pas, là.
Non. Et puis, il faut avoir ces discussions-là. À un moment donné, faut comprendre que ces systèmes d'intelligence artificielle vont devenir assez capables, que ça va devenir utilisable pour la mise au point d'armes. Donc, ça va devenir un outil géopolitique. Il va avoir des enjeux un peu comme avec le nucléaire, qui a double usage, hein, positif, civil ou militaire. Il va falloir qu'on négocie avec les pays avec lesquels on ne s'entend pas toujours pour essayer de minimiser les dégâts, comme on le fait pour le nucléaire.
Professeur Benjo, vous avez évoqué l'idée de la création d'une machine surhumaine. D'ici quoi? Une vingtaine d'années à peu près. Ça serait quoi une machine surhumaine?
Ben, vous savez, l'intelligence de l'être humain n'est pas nécessairement le sommet de l'intelligence. En fait, on sait qu'on a beaucoup de faiblesses. Et puis, que le cerveau est une machine biologique qu'on comprend de mieux en mieux. Et on voit les progrès de la recherche en intelligence artificielle. Donc, c'est clair qu'on est dans une trajectoire qui nous amène vers des systèmes de plus en plus intelligents qui vont au moins atteindre le niveau de capacité cognitive des êtres humains et probablement le dépasser dans au moins certains domaines. Puis, il faut qu'on réfléchisse à ça, qu'on s'assure que ça cause pas de problème ou qu'on minimise les problèmes.
Vous avez évoqué un délai de 20 ans, mais vous l'avez dit vous-même d'entrée de jeu, là, au début de notre entretien, professeur Benjo, vous avez été un peu surpris par l'arrivée aussi rapide de ChatGPT. Ben, une machine surhumaine comme celle que vous évoquez, est-ce que ça pourrait être encore plus rapide qu'anticipé?
Oui, c'est clair. Ça pourrait être quelques années. Ça, c'est il y a des chercheurs, il y a des gens qui développent le ChatGPT puis d'autres de ces systèmes-là qui pensent que ça pourrait être 2-3 ans. Moi, je pense qu'ils sont un peu optimistes, mais ils pourraient avoir raison. Donc, c'est très rapide là. Ça, ce serait un changement de notre société. Là. C'est même difficile à imaginer. Mmh. Alors, il faut y réfléchir, il faut se préparer et pas faire comme si c'était juste « Ah, ben ça, c'est un scénario de science-fiction. » Voyons donc.
J'aimerais, professeur Benjo, qu'on termine l'émission sur une note un peu plus positive sur les bienfaits de l'intelligence artificielle. En santé, notamment, il y a des pistes qui vont s'ouvrir là, pour soigner des maladies graves avec l'intelligence artificielle.
Oui, et on a beaucoup de chercheurs là au Québec, au Canada, qui s'intéressent à ça. Il y a des équipes, par exemple, au CHUM, là, qui développent beaucoup l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ça commence à être utilisé dans le diagnostic, particulièrement à partir des images médicales ou des vidéos d'analyse médicale. Ça va vraiment permettre de compléter là, le travail des médecins. Et puis, plus fondamentalement, il y a de la recherche sur... qui va nous permettre de mieux comprendre comment fonctionnent les cellules dans notre corps, de mettre au point des nouveaux médicaments. Il y a déjà des compagnies pharmaceutiques qui mettent au point des nouveaux médicaments avec l'intelligence artificielle. Alors, il y a vraiment une révolution en santé là, qui est en train de se mettre en place avec l'intelligence artificielle parce qu'on collecte de plus en plus de données biologiques, scientifiques pour la santé qui peuvent être exploitées pour mieux comprendre ces enjeux-là et trouver des meilleures solutions.
Bon, alors donc, des pistes prometteuses à ce niveau-là. En terminant, est-ce que vous croyez à l'adoption d'une législation au Canada en 2024?
En tout cas, je l'espère fortement. Moi, je croyais vraiment, il y a un an, que ça se passerait en 2023. Après, là, c'est des jeux politiques dont je ne suis pas un expert. J'espère que ça va se décider au-delà des chicanes de parti parce que c'est dans l'intérêt public.
C'est assez fondamental. Ben, souhaitons que votre appel soit entendu. Joshua Bengio, vous êtes un pionnier de l'intelligence artificielle, professeur à l'Université de Montréal. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Et c'est là-dessus que l'émission prend fin. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Au réseau Cogeco. Vous écoutez Le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Le Québec
maintenant. Oui, Martin Carlier, Sa Science. Salut Martin.
Salut Philippe.
Hey Martin, quand j'ai lu l'article du New York Times le week-end dernier, je pensais véritablement que c'était de la science-fiction. On nous apprenait que pour lutter contre les changements climatiques, il y a des scientifiques qui s'intéressent à un projet absolument fantastique, c'est-à-dire d'installer dans l'espace, quelque part entre la Terre et le Soleil, un immense parasol, grand comme l'Argentine, qui pourrait filtrer les rayons du Soleil et nous aider à lutter contre le réchauffement de la planète. C'est vraiment sérieux, ça?
Ben, écoute, ça devient apparemment de plus en plus sérieux à un point tel qu'une entreprise australienne annonce qu'elle est prête à bâtir un prototype et à l'envoyer. Évidemment, le financement est un peu à la clé de tout ça. L'envoyer dans l'espace d'ici 3 ans. Donc, c'est ce qui est annoncé. Évidemment, le prototype là n'aura pas du tout la superficie de la solution finale qui est proposée. On parle quand même d'une version beaucoup plus réduite, là, d'une centaine de mètres carrés à peu près. Mais le but de cette entreprise-là, c'est de montrer que c'est une solution qui se peut puis une solution qui fonctionnerait. Parce que c'est un peu ça qui est le point. En théorie, ça a l'air bien beau, mais est-ce que c'est quelque chose qui pourrait fonctionner pour vrai? Donc ça, c'est l'objectif de cette entreprise-là. Leur prototype, là, puis le fait de le déployer coûterait entre 10 et 20 millions de dollars, ce qu'ils annoncent. Et puis, voilà, ils se disent tout à fait prêts à l'envoyer, puis on verra ce que ça donne.
Toi qui es habitué là, de naviguer avec des concepts comme ceux-là, puis tu nous parles très régulièrement à l'émission de nouvelles idées en matière scientifique, de projets de développement qui vont se faire sur des années, bien sûr. Est-ce que tu crois qu'un projet comme celui-là est réaliste?
Ben, réaliste, c'est sûr que ça se peut, mais il y a énormément de si, hein, dans un projet comme ça. Déjà, ce que ceux qui proposent ce projet-là annoncent, donnent déjà des si. C'est comme s'ils savent déjà les critiques qui s'en viennent, puis ils disent, bon, ben là, ouais, mais tu sais, sauver la planète, c'est quand même mieux que d'aller à la guerre les uns contre les autres. Parce qu'essentiellement, on parle d'un projet qui, à terme, coûterait là des milliards de milliards de dollars. Là. Ça coûterait une fortune. C'est évidemment un projet d'humanité, donc il faudrait que tout le monde participe au financement du projet, bien entendu. Mais ce que les auteurs ou ce que les créateurs du projet disent, c'est ouais, mais c'est quoi de couper le budget militaire de 10% de tous les pays du monde pour sauver la planète? C'est sûr que la logique se tient. Est-ce que quand je vois là, à quel point toutes les COP, on a de la misère à faire un communiqué qui fait consensus sur les participants de la COP. Je me dis, faire un projet comme ça, ça risque d'être complexe. Là.
Oui, en effet.
Il y a quand même quelques intérêts là-dedans. Parce que ce qu'il faut dire au départ, c'est que le problème actuel, c'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Donc, essentiellement, de la chaleur qui nous vient du soleil vient réchauffer la surface de la Terre qui, à son tour, va émettre des rayons infrarouges. Ça s'en va dans l'atmosphère. Mais le problème, c'est qu'il y a des gaz dans l'atmosphère qui redirigent cette chaleur-là vers la Terre, donc piègent cette chaleur-là, notamment le gaz carbonique qu'on produit en très, très grande quantité. Donc, dans les solutions qui sont proposées, il y en a qui sont des solutions entièrement spatiales, et cette solution-là en est une, de dire on va aller mettre essentiellement une ombrelle dans l'espace à un point très précis, qui va permettre d'envoyer vers la Terre une lumière qui est diffusée. Donc, on en intercepte une partie. Et ce que ces scientifiques-là ont calculé, c'est que si on réussit à intercepter ne serait-ce que 2% de la lumière du soleil, ben essentiellement, on va réduire la température sur la Terre de 1,5 degrés Celsius.
Ce qui est l'objectif.
L'objectif, c'est le fameux 1,5 degré dont on parle.
Mais donc, moi, je pensais que ce parasol-là, là, à la première lecture, qui serait un peu dans l'espace comme un satellite, mais là, il y a des gens qui disent non, on le fixerait à un astéroïde.
Exact. Exactement, pour pouvoir être capable de stabiliser sa position si on veut. Parce que tu peux pas juste envoyer ça dans l'espace et espérer qu'il va rester à la bonne place juste parce que tu y dis, là, on s'entend. Faut vraiment le réussir à le placer au bon endroit. Le prototype actuel qui est conçu, ce serait pas sur un astéroïde, mais fixé à une sorte de satellite qui lui aussi serait envoyé. Et là, l'espèce de bouclier serait stabilisé avec des voiles solaires, un peu comme les lattes d'un star vénitien, là, si ouais. Tu veux, pour être capable de stabiliser la position de tout ça. Je dirais que le gros avantage là de ceux qui font qui critiquent ce projet-là, c'est qu'on est entièrement dans l'espace. Parce que il y a des projets aussi qui visent à entraîner des modifications au niveau de notre atmosphère. Par exemple, d'envoyer des nuages de poussière réfléchissante à une certaine hauteur dans l'atmosphère, qui donc réfléchirait la lumière du soleil avant qu'elle atteigne le sol. Il y a des projets en ce sens-là. Il y a des projets pour peut-être augmenter la réflexion par les nuages au-dessus de la mer. Il y a des projets qui visent à augmenter ce qu'on appelle l'albédo, donc l'indice de réflexion de la surface terrestre pour éviter que la lumière ne réchauffe trop la surface terrestre. Mais il y a beaucoup de gens aussi, dans le cadre de ces projets-là, qui disent « Oui, mais attention, là, on peut-tu ne pas jouer avec l'atmosphère terrestre? » Parce qu'on ne sait pas vraiment ce que ça va faire de causer toutes ces transformations-là. Donc, c'est à peu près le seul, le plus gros, je dirais, avantage qui est attaché à un projet qui est entièrement dans l'espace, c'est qu'on se dit « Ben, tu sais, on n'affectera pas l'atmosphère. » Mais, et là, le gros mais de ça, c'est qu'il y en a qui disent, c'est pas régler le fait d'envoyer un bouclier de la taille de l'Argentine dans l'espace. Là, on parle de centaines de lancements de fusées et ainsi de suite pour réussir à faire ça.
C'est ça, on n'envoie pas un gigantesque objet comme celui-là dans le firmament, là, d'un seul coup.
Oui, exactement. Puis là, en plus de ça, ben il y a des gens aussi qui disent, et s'il y avait une collision avec le bouclier, mettons que le projet il marche, puis que là il y a une collision avec le bouclier se rompt et ainsi de suite, et que là, tu aurais tout d'un coup une augmentation rapide de la température sur la Terre. Est-ce qu'on serait capable de faire face à ça? Il y a quand même plusieurs éléments
beaucoup
qui sont
peut-être pas coulés.
Ouais, ouais, on s'entend.
Mais quand on regarde ça, là, il y a 200 ans qui auraient pensé, là, les gens qui étaient sur Terre il y a 200 ans, qui auraient pensé qu'un jour il y aurait des satellites dans l'espace, qui auraient pensé qu'il y aurait une station spatiale internationale, qui auraient pensé qu'on aurait des télescopes qui iraient au plus profond de l'univers pour essayer de découvrir l'origine du Big Bang. Tu sais, il y a tellement de choses qui ont évolué pendant les années. Alors, peut-être que dans 100 ans, 150 ans, sait-on jamais. Martin, merci beaucoup de ces explications.
C'est un plaisir, à bientôt.
Salut, c'était le journaliste scientifique Martin Carly.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.